Et c'est la fin de ce flash. Excellente matinée à tous.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bonjour à vous. Chinatan, moine bouddhiste vietnamien militant pour la paix, a déclaré « Chacune de nos respirations, chacun de nos pas peut être rempli de paix, de joie et de sérénité ». Eh bien, ma foi, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce lundi. Oui, dernier lundi de ce mois de juin. Alors, nous fêtons aujourd'hui les Pierre et les Paul. On leur souhaite une très très bonne fête. Et cette bonne journée, surtout, eh bien, passez-la selon votre humeur, comme le dit Georges Chelon.
Selon l'humeur, j'allais au bord de la rivière, je m'asseyais sur une pierre, je regardais passer les heures. Selon l'humeur, j'allais dans la forêt profonde, quand j'avais l'âme vagabonde et de la peine au cœur. Selon l'humeur, depuis que dans le vestibule s'était arrêtée la pendule, une affaire de cœur. Selon l'humeur, j'ouvrais ou non les paupières, le coq de la fermière chantait pour du beurre. Selon l'humeur, elle était brune, elle était blonde, elle était mince, elle était ronde, elle était au petit bonheur. Selon l'humeur, j'allais chez Pierre, Paul, Jacques, je me sentais toujours d'attaque pour boire en leur honneur. Selon l'humeur, je pouvais fermer ma porte comme un ascète se comporte, vivre un temps retiré. Selon l'humeur, la guitare en bandoulière, je me faisais globe-trotter et puis je revenais. Selon l'humeur, je me voyais par la suite dans une vie bien égoïste, bien solitaire, à souhait. Selon l'humeur, je me trouvais une compagne qui me faisait une montagne d'enfants que j'aimais. réveille-toi. Il est temps que tu te lèves. Non, ce n'est pas un rêve. L'école n'attend pas. Debout, c'est l'heure. Les sœurs, le petit frère, tout le monde est sur le pied de guerre. Humeur ou pas, humeur, tout le monde est sur le pied de guerre. Humeur ou pas, humeur.
Georges Chelon, accompagné par Didier Lockwood, un grand violoniste qui nous a quittés malheureusement en 2018. Merci à vous d'écouter Radio Plus. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le dernier lundi du mois de juin. Et comme chaque année, je considère que nos intervenants ont droit à un peu de vacances durant ces deux mois d'été. Alors, ce sera donc les dernières interventions pour cette saison, en espérant que nous les retrouverons en septembre. Dans notre rubrique « Saletant sur la planète », Jean-Louis Ouattet nous expliquera ce que les autorités entendent par « droit à l'environnement ». Et oui, on en parlait beaucoup, et puis le virus est arrivé. Et un décret du 8 avril, passé complètement inaperçu, autorise les préfets à détricoter ce droit à l'environnement. Alors inutile de vous dire que les associations environnementales s'étranglent. On retrouvera ensuite Sérénité avec Bertrand Trinel, avec qui nous parlerons jardin, bien sûr, mais aussi nature, peut-être pour vous donner de bonnes idées de détente, peut-être pour vous ressourcer après cette période un petit peu troublée. Tranquille, sans précipitation, Bertrand nous expliquera.
Je crois que c'est fait et bien fait. J'y pensais, je me sens fort. Je crois qu'en effet, ton effet a perdu toute forme. Je crois que c'est fait, il le fallait. Fallait bien tenter t'éteindre. Le temps est passé de te peindre. Alors assurément bien, je me détends, détends. Tension, je me détends, détends. Tension. De temps en temps y revenir, passer par des souvenirs, sentir changeant de ton, moi mes couleurs préférées sont le blanc, le transparent aussi, le gris, le blanc, le transparent aussi, le gris. Je crois que c'est fait, j'aurais jamais cru si bien faire. Le toit dit on est ouais, pour suivre une voie tranquille. Je crois que c'est fait, il le fallait. Les bien tenter t'éteindre. Le temps est passé de te peindre. Alors assurément bien, je me détends. Tension, je me détends. Tension, je me détends. Tension, je me détends. Tension.
Mathieu Bogarts sur Radio Plus, Mathieu Bogarts qui se détend. Et alors justement, notre enquête dans l'air du temps, en parlant confinement, tenez, selon un sondage IFOP, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg pendant cette période de confinement, peut-être dû aussi au stress, ou alors c'est peut-être que ces dernières semaines, eh bien pour une majorité de Français confiné à une majorité de Français confinés a davantage rimé avec canapé qu'avec frugalité. Comme le souligne le journal Le Point Santé, la prise de poids n'est pas un problème en soi et était prévisible dans un contexte de stress et de dépenses énergétiques limité. Plus de temps à la maison signifie plus de temps consacré à la préparation des repas, mais aussi plus d'occasions de grignoter. Et ça, c'est une analyse de Quentin Molinier de Darwin Nutrition. Et si le temps passé à table ou dans les placards a augmenté, plusieurs autres habitudes se sont elles aussi renforcées. L'étude de l'IFOP montre que 42% des sondés prennent l'apéritif plus qu'avant, ça c'est pas bien, hein, et que 2 personnes interrogées sur 10 ont consommé davantage de chocolat durant le confinement.
Que te fait-il? Mais que veut-il? À ton corps, à toi, ce petit gars.
Son corps d'athlète, toutes ses tablettes, bien dessinées et trop alignées.
Je fais pas le poids,
non,
et je manque de goût. Alors à cause de ça, eh bien, j'en deviens fou. Pour te faire rire, ce n'est pas dur. Tu le déshabilles et à coup sûr tu le dévores de tes beaux yeux, de tout son corps. Et moi, pauvre vieux,
j'ai vraiment peur que tu me quittes pour le 4 heures ou que tu m'évites. Quand vient la sieste, je veux en parler, mais toi, petite peste, eh bien, t'as recraqué
la colocation. À condition que dans les trois, je sois pas à l'abandon. Je veux pas être triste dans mon petit coin à cause d'une égoïste qui a encore faim.
C'est ma sortie, je cède ma place. Il est trop fort et c'est une impasse. Ma résignation, cet amant-là, ton obsession, le chocolat, ma résignation. Cet amant-là, ton obsession, le chocolat.
3 cafés gourmands sur Radio Plus, et oui, c'est le nom du groupe. Alors, je ne sais pas s'il aime le chocolat, mais tout de suite, on retrouve Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrenne Nature, pour notre rubrique « Saltant sur la planète ».
Saltant sur la planète.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, une majorité de Français souhaite un développement en accord avec la lutte contre le changement climatique et que ce développement soit donc le code déterminant de toute action publique. Il est vrai que la pression citoyenne n'a jamais été aussi forte pour obliger les politiques à bâtir un monde d'après, comme on dit, plus écologique. Or, un décret du 8 avril, passé complètement inaperçu et pour cause, autorise les préfets à détricoter le droit de l'environnement. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, notre but étant d'éclairer nos auditeurs et d'expliquer certaines choses, nous allons faire un petit peu la lumière sur ce concept droit à l'environnement. Et en restant simple, Jean-Louis, peut-on expliquer ce que cela implique? Car droit à l'environnement, c'est quelque chose qui reste un petit peu, je dirais même, beaucoup vague. Est-ce que c'est constitutionnel, juridique, administratif?
Alors c'est quelque chose, c'est vrai, qui n'est pas simple. Hein. Le droit de l'environnement, c'est un concept qui appelle à la protection et la préservation de la nature, qui incite à la lutte contre les nuisances, qui vise à l'aménagement de l'espace rural, urbain et du patrimoine naturel. Donc ça repose sur de grands principes juridiques, alors qui résultent soit du droit international conventionnel, soit du droit communautaire, hein, communautaire européen, notamment par exemple la loi sur l'eau, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadres sur l'environnement. Faut savoir qu'au moins 80% de la réglementation française en environnement provient des réglementations communautaires européennes. Donc faut savoir que le droit qui est élaboré par la communauté européenne, c'est essentiellement composé de directives et de règlements. Alors les règlements, là, ça s'applique directement dans les États membres. Par contre, les directives, je reprends par exemple la directive cadre sur l'eau, eh bien elle doit être transposée dans le droit national de chacun des États avant d'avoir une force contraignante. C'est-à-dire que, eh bien, il faut qu'il y ait une loi sur l'eau. Et donc l'Europe veille au grain, c'est-à-dire qu'elle donne un certain délai. Alors, passé ce délai, il y a des amendes. Il faut savoir que les principes du droit français de l'environnement donc sont fortement inspirés des droits communautaires et internationaux. Donc, il faut savoir que c'est une science toute jeune, récente. Ça englobe des lois, des décrets, des arrêtés, des circulaires, des directives, des règlements. Donc, ça fait une législation importante qui est applicable à tout citoyen. En plus, ça, il faut ajouter des normes, des lignes directrices, des recommandations qui sont édictées aux administrateurs et aux dirigeants, et on a quand même quelque chose de très 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 lourd. Mmh. Donc faut savoir que il est difficile d'identifier et de classer les principes généraux, mais certains d'entre eux expriment des vœux ou des objectifs, d'autres c'est des normes juridiques, et donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. On a ce qu'on appelle un code de l'environnement, hein, qui est donc un petit peu la Bible.
Et alors justement, Jean-Louis, comment savoir si ce droit à l'environnement est respecté? Alors j'ai bien compris que toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est bien ça. Mais ne nous voilons pas la face. Si c'était le cas, nous n'aurions par exemple pas besoin de faire cette rubrique chaque semaine pour mettre en garde sur beaucoup de choses. Il n'y aurait pas toutes ces associations et ces collectifs pour dénoncer moult dangers. Alors on ne les citera pas, hein, la liste est vraiment trop longue.
Oui, faut savoir que le droit de l'environnement s'est constitué de législations d'origine et d'époques différentes, hein, qui ont souvent évolué, donc au moins jusqu'à une période récente, sans souci forcément de cohérence. Donc l'accès au droit à l'environnement, c'est devenu assez malaisé pour tous. Et puis ça suppose que le respect du droit suppose que les règles soient vraiment claires et accessibles, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Alors on ajoute à ça le manque de fonctionnaires dédiés à l'application des règles, hein, parce que on décrit les fonctionnaires, trop de fonctionnaires, malheureusement, ce sont ces fonctionnaires qui font appliquer les règles, hein, qui sont capables, leur but c'est quand même de faire appliquer les textes, moins de fonctionnaires, moins d'application de règles.
Et moins de contrôle, bien sûr.
Moins de contrôle, il faut quand même qu'il y ait un contrôle. Et puis il faut savoir que le droit à l'environnement, c'est vécu par beaucoup de citoyens comme une contrainte, hein. Hein, quand on parle de l'Europe, hein, on dit « oui, c'est la faute à l'Europe », oui, parce qu'il y a des contraintes. Alors, je dis pas que l'Europe n'a fait que des contraintes, mais les gens n'aiment pas les contraintes. Donc, c'est vrai que quand on peut ne pas appliquer une norme, malheureusement, on fait tout pour ne pas l'appliquer.
Mmh. Alors, Jean-Louis, justement, c'est quoi ce décret qui autorise les préfets à détricoter le droit de l'environnement? Et d'abord, pourquoi ce terme détricoter? Et puis, est-ce que cela ne signifie pas tout simplement que tout et n'importe quoi pourra se faire, par exemple, au nom du développement économique d'une région, laisser s'installer des usines ou des fermes polluantes avec des études d'impact au rabais, ou alors faire fi des enquêtes publiques? Là aussi, la liste est longue.
Ah bah oui, là il est clair que y a un lobby comme toujours hein, qui est là derrière, hein, et je dirais un lobby industriel, un lobby de l'équipement, un lobby agricole, et puis aussi un lobby des maires. Hein. Faut savoir que l'Association des maires de France n'est pas étrangère à cela, hein, puisqu'il dénonce depuis la lourdeur administrative pour monter les dossiers. Alors bon, pour parler de choses, je vais vous lire clairement le décret, hein, décret l'article 1, le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes. Donc subventions, concours financiers, dispositifs de soutien en faveur des sciences et des acteurs économiques, des associations, des collectivités territoriales. Deuxièmement, l'aménagement du territoire et la politique de la ville. Donc c'est là où on retrouve les aménagements. Environnement, agriculture, forêt, en troisièmement. Quatrièmement, construction, logement, urbanisme. Bah oui, donc là, c'est si on veut faire un lotissement et que le préfet peut déroger. Emploi et activité économique, protection et mise en valeur du patrimoine naturel, activités sportives, socio-éducatives et associatives, donc pratiquement tout. Donc, mais quand même, la dérogation doit répondre aux conditions suivantes, donc il y a quand même des garde-fous. Être justifié par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales, avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure et favoriser l'accès aux aides publiques, et c'est là où, justement, sur ce deuxième point, c'est les maires qui ont poussé à la roue parce que les démarches sont lourdes, les délais sont longs, ça fait perdre des aides publiques. Être compatible, alors là aussi c'est quand même un garde-fou important, être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France, donc on peut pas faire n'importe quoi n'importe où. Et puis ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Donc il y a quand même quelques garde-fous, hein, mais bon, il est clair que c'est une demande, hein. On entend depuis longtemps, hein, on entend les élus dire on a une réglementation qui est trop tatillonne, le montage des dossiers c'est beaucoup trop long, et donc ça nous fait perdre des aides, on en arrive là, quoi.
Mais je crois qu'il faut quand même pas tout mélanger, l'administratif d'un côté et puis les décisions prises de l'autre, parce que l'administratif ne règle pas tout, c'est vrai. Et bon, quand c'est surtout c'est facile quand même de se retrancher un petit peu derrière une administration trop longue.
C'est vrai que on l'entend quand on travaille sur le terrain avec des communes, on nous dit entre le moment où on lance un dossier et le moment où on va pouvoir le réaliser, il faut plus de 2 ans. Bon, par exemple, je vois ici sur notre commune, c'était le reméandrage, donc c'était un projet écologique, hein, reméandrage d'un cours d'eau. Il a fallu 2 ans de procédure, enquête loi sur l'eau, enfin, etc. Donc c'est vrai que c'est long. Mais je pense que le problème, c'est que il y a un manque de personnel et que dossiers sont pas traités rapidement, quoi.
Mais là encore, Jean-Louis, c'était dans le bon sens. C'était pour faire quelque chose d'écologique.
Pour faire quelque chose, hein.
Tandis que il y a peut-être beaucoup de d'autres choses qui vont se faire. Par exemple, je citais tout à l'heure.
Ça ira plus vite dans le mauvais sens.
Voilà. Aller plus vite l'installation d'une porcherie industrielle, par exemple.
Tout à fait. Les risques sont énormes.
Hein. Alors, justement, Sébastien Mabille, avocat en droit de l'environnement, dit que ce n'est pas un droit pour protéger l'environnement, mais un droit qui autorise à polluer dans une certaine mesure. On a privilégié la solution de la dilution et on éloigne les pollutions des lieux où vivent les classes dominantes. Et la députée Delphine Bateau, ex-ministre de l'écologie, annonce « Le droit de l'environnement actuel résulte d'une époque où la puissance publique public considérait qu'il était possible de compenser la destruction de la nature et Corinne Lepage d'ajouter « Notre tradition est très administrative, faite de procédures ». Mais cela n'évite pas des situations de pollution catastrophique comme autour de l'étang de Berre, qu'elle cite hein, en exemple, dans la vallée de la chimie à Lyon ou au Havre. Alors ce qui voudrait dire que ce système bureaucratique ne permet pas une protection efficace des biens communs et de l'environnement. Alors plusieurs avocats ont par ailleurs rapporté une baisse de la qualité de ce droit, de plus en plus technique, de moins en moins compréhensible. Par exemple, le droit des déchets est devenu tellement compliqué qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord sur ce qui est ou ce qui n'est pas un déchet. La qualité du droit est un vrai problème. Et alors, bien sûr, n'en restons plus. Jean-Louis, la cour est pleine. On ne peut que conclure que c'est un sujet très complexe, que le débat pourrait durer indéfiniment. Et pour ma part, j'ai envie d'ajouter que cela ne rime pas à grand-chose et on comprend sans doute mieux la démission de Nicolas Hulot. Hein. C'est difficile quand même, hein.
Bah, c'est un sujet qui est très compliqué. Hein. Il faudrait qu'il y ait régulièrement un toilettage hein, de cette réglementation. La qualité du droit est un vrai problème. Et donc ça, c'est tout à fait. Hein. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur ce qui est ou n'est pas un déchet. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, on voit bien qu'est-ce qu'une zone humide. Quand ça commence, quand ça s'arrête, on ne le sait pas non plus. Donc c'est des sujets qui sont quand même très compliqués hein, quand on rentre vraiment dans le détail. Bon, il n'empêche que, bon, faut savoir quand même que ce décret, il n'a rien de nouveau. Hein. C'est un copier-coller d'un précédent décret de 2007 qui expérimentait la mesure dans deux régions.
D'accord.
Les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que dans 17 départements pour une durée de 2 ans. Donc, il y a eu une expérimentation. Alors, le texte a été reproduit tel quel pour être généralisé à l'ensemble du territoire. Donc, c'est le décret du mois d'avril. Bon, il comporte quand même des garde-fous, ça je l'ai dit, mais bon, quand même, c'est un cadeau accordé aux professionnels de l'immobilier, aux lobbies agricoles, aux lobbies industriels. C'est certain que on a lâché du lest, on lâche du lest sous la pression, sous des pressions économiques. Mais bon, il y aura un effet boomerang, hein. Il est clair que avec le réchauffement climatique, il y aura un effet boomerang.
Bah de toute façon, on laisse du lest. C'est vrai que, par exemple, prenons le cas des pesticides.
Bah oui.
Chaque préfet a pratiquement décidé de la.
A détricoté la réglementation. Et je pense que le seul vrai pouvoir, c'est les consommateurs. Hein.
Bien sûr.
Hein. Il faut que les consommateurs se mobilisent et que, à partir du moment où les consommateurs feront le choix économique des produits de qualité, des produits sains, je pense que ça bougera. Et voilà, donc on l'a déjà maintes fois répété, mais il est vrai que c'est important. Là, par exemple, sur l'urbanisme, c'est vrai que ça peut faire craindre du développement de lotissements ou d'implantations dans des zones qui sont en fait des zones à protéger. Je pense qu'il faudra être vigilant.
Tout à fait, tout à fait. Jean-Louis, merci.
Merci.
Et alors, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, vous avez le droit de vous reposer durant ces 2 mois d'été.
Eh ben, on va en profiter.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Je prends soin de mes troupes.
Voilà, très bien.
Alors, je vous laisse donc profiter de ces vacances. Alors, vous retrouverai-je en septembre?
Bah oui, on se retrouvera en septembre.
Jean-Louis, merci. Bonnes vacances à vous.
Bonnes vacances à tous et à bientôt, à septembre.
À septembre.
Yeux rivés sur nos smartphones et nos cerveaux dans le formol. moitié robot, moitié homme. On n'entend ni ne voit plus personne. S'il y en a un qui doit rigoler, c'est Big Brother dans son palais. Mais il n'est jamais trop tard, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chérir chaque jour la beauté qui nous entoure, rayons de soleil, nature qui s'éveille. Relever la tête, regarder la grande image. Adieu marionnette, place à l'enfant sauvage. Croiser son prochain et lui tendre la main. Quel que soit son dieu, sa couleur, son destin. Reprendre son âme en main. Redevenir un être humain. Quand on aura tout dévoré, plus d'animaux, plus de forêts. Qu'est-ce qu'on fera de toute cette monnaie? Allume-feu, cocotte en papier. Des commandes au son piédestal, Big Brother, ce génie du mal. Il n'est jamais trop tard pour l'utopie, l'espoir. Chérir chaque jour la beauté qui nous entoure. Rayons de soleil, nature qui s'éveille. Relever la tête, regarder la grande image. Adieu marionnette, place à l'enfant sauvage. Croiser son prochain et lui tendre la main. Quel que soit son dieu, sa couleur, son destin. Reprendre son âme. Redevenir un être humain. Reprendre son âme en main. Redevenir un être humain.
Avec cette chanson extraite de son nouvel album, et c'est sur Radio Plus. Alors l'environnement, la nature, évidemment, ça parle à Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Prendre le temps de se ressourcer dans la nature. Et si c'était ça le bonheur?
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors ça y est Bertrand, l'été est à peine arrivé que déjà des vagues de forte chaleur nous éprouvent. Alors est-ce que les plantes, arbustes ou même arbres peuvent souffrir et être brûlés par le soleil? Quels sont les symptômes, docteur? Vous permettez que je vous appelle docteur?
Pas vraiment, mais bon.
Qui montrent qu'ils souffrent et soit de la sécheresse ou autre. Et le cas échéant, avez-vous des astuces? Parce que bien sûr, suivant vos conseils, la plupart des jardiniers ont paillé, mais il y a le feuillage. Et puis chaque année, la chaleur et la canicule apportent leur lot de difficultés. Alors dans de nombreux départements, des arrêtés préfectoraux interdisent aux particuliers d'arroser leur jardin depuis le réseau sanitaire d'eau potable entre 8h et 20h afin de préserver cette ressource. Donc bon.
Oui, donc c'est vrai que les arbres peuvent effectivement être brûlés par le soleil. Hein. Donc c'est souvent très brutal. Donc en peu de temps, quelques jours seulement, les feuilles se décolorent, brunissent, puis se dessèchent complètement. Hein. Donc c'est un phénomène qui apparaît principalement sur les feuillages qui est exposé forcément en plein soleil. Donc c'est évident que les plantes qui ont un feuillage fin, hein, vont souffrir beaucoup plus que celles qui ont un feuillage coriace. Par exemple, le feuillage de certains érables japonais vont riller plus facilement en plein soleil. par exemple, par rapport à Nukuba ou par rapport à Laurier, par rapport à tout ça, quoi, qui a un feuillage beaucoup plus coriace. Donc, si ça arrive sur une de vos plantes, bah, laissez le feuillage qui est brûlé sur place, ne l'enlevez pas, parce que si vous l'enlevez tout de suite, les feuilles qui sont en dessous bah, n'auront plus de protection. Parce que ce feuillage qui est brûlé sert un peu d'ombre, il faudra un peu d'ombre quand même aux feuilles qui sont en dessous pour qu'elles aient le temps de s'acclimater tranquillement, quoi. Dans un premier temps, moi, je dirais que l'idéal, ce serait de créer un étang à un écran afin d'éviter que les rayons du soleil ne frappent directement les feuilles. Hein, parce que, alors on peut mettre un voile de forçage, quelque chose, quand c'est vraiment la canicule, quand le soleil est vraiment très fort. Hein. Mais alors, ensuite, bien souvent, la plante va refaire, même si le feuillage est rayé, va refaire des nouvelles feuilles, et ces jeunes feuilles vont devenir plus résistantes parce que la plante s'adapte. Hein, tout doucement, la plante va s'adapter. Mais je pense quand même que si vous avez un feuillage qui est grillé, par exemple, si vous avez un érable au feuillage qui est grillé, pour l'instant, vous laissez là, mais à l'automne, il faudra le déplacer et puis replanter cette plante dans un endroit à mi-ombre.
Hein. D'accord. Ouais.
Bon, il faut savoir aussi que les plantes qui ont un feuillage doré, par exemple comme le Philadelphus aurea, plus connu sous le nom de seringa dorée, vont souffrir beaucoup plus que celles qui ont un feuillage vert. Donc, plantez-les plutôt à mi-ombre. Bon, bien sûr, comme vous le disiez, le manque d'eau va encore accroître le phénomène. Donc, le paillage est effectivement un bon remède pour conserver l'humidité. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Pailler, c'est super bien. Quant au réseau d'eau potable, effectivement, on n'a pas le droit d'arroser entre 8h et 20h, mais c'est une bonne chose.
Oui.
Parce que pendant ces heures-là, bah, l'eau va très vite s'évaporer hein, quand il y a la canicule. Et puis, en plus, amener de l'eau du robinet qui est très froide, c'est pas bon du tout pour les plantes. En plus, elle est chlorée. Donc vraiment, franchement, ce qu'il faut faire, c'est récupérer l'eau de pluie le plus possible. En période hivernale, quand vous avez des pluies, tout ça, il faut essayer d'avoir des réserves d'eau et récupérer l'eau de pluie le plus possible, c'est la meilleure.
Tout à fait.
Et puis un petit truc quand même pour renforcer un peu le feuillage quand même, le rendre plus résistant déjà, plus résistant aux pucerons, et puis pourquoi pas aux rayons du soleil, bah, juste pulvériser une solution de 10 grammes, mais pas plus, 10 grammes de miel. Alors quand je dis miel, c'est du vrai miel, c'est pas du miel à portée de Chine, hein. Et c'est pas du sucre non plus raffiné, c'est du vrai miel, à 1 litre d'eau, et vous le pulvérisez sur la plante. Et la plante va rendre ses feuilles un peu plus résistantes.
D'accord, tiens. Alors, par forte chaleur, on peut supposer que certains insectes, pas toujours souhaités dans le jardin, peuvent proliférer. Alors Bertrand, on sait que votre jardin est biologique, c'est-à-dire que c'est un écosystème en miniature, aux règles complexes, et qu'en tant que jardinier, vous ne luttez pas contre les processus naturels, mais au contraire, vous aidez à la diversité de la vie et au bon fonctionnement des régulations naturelles. Alors néanmoins, est-il encore possible de faire quelques associations de légumes au potager pour justement aider cette régulation naturelle ?
Alors oui, tout à fait. Hein. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir un jardin en équilibre. Alors pour cela, il faut y accueillir les ophélières du jardinier et leur offrir le gîte et le couvert. Alors par exemple, nous avons planté de l'absinthe, car très tôt au printemps, l'extrémité des tiges va se couvrir de pucerons. Donc la plante va attirer les coccinelles qui rapidement se multiplient, mais ça se multiplie à vitesse grand V. Il faut voir le nombre de coccinelles qui viennent, et puis de larves de coccinelles qui remplissent le pied d'absinthe. Hein. Et ensuite, elles se dispersent dans le jardin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on met ? Ben, on a des capucines. Les capucines, ça va attirer des pucerons. Alors ça attire des pucerons qui sont bien spécifiques à la capucine. Hein. Ce ne sont pas des pucerons qui vont aller sur d'autres légumes. Alors il y a des gens qui disent, je mets des capucines pour attirer les pucerons pour pas qu'ils aillent sur mes légumes, mais c'est pas les mêmes de toute façon. Mais c'est simplement pour qu'elles servent de nourriture à nos amis, aux amis du jardinier, qui sont les coccinelles, les syrphes et les chrysopes. Hein. Après on met des fèves, parce qu'on sait que les fèves, ça va attirer les pucerons. Enfin, le but dans le jardin, pour nous, c'est d'avoir un peu de pucerons pendant toute l'année. Comme ça, on a les prédateurs des pucerons qui sont là, ils ont leur nourriture, ils restent dans le jardin, il n'y a aucun problème, et le jardin reste en équilibre.
Tout à fait.
Et le jardin va se réguler tout seul, quoi. Donc, dans le même objectif, nous avons planté une haie champêtre autour du jardin. Alors, c'est deux rangées d'arbustes, et cela permet de fournir du nectar donc aux insectes, mais également de gîtes et de couverts aux oiseaux. Ceux-ci seront bien présents dans le jardin, ils vont contribuer à l'équilibre naturel, donc ils vont se nourrir de larves, de chenilles, et puis d'autres insectes prédateurs, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, donc voilà. Et puis dans le potager, ben, il s'agit bien souvent de tromper les prédateurs en faisant en sorte d'associer les légumes afin de cacher les odeurs les uns des autres. Par exemple, on va mettre une route de carottes, qui est la carotte a une odeur particulière qui attire la mouche de la carotte, puis on va mettre une route de poireau qui, lui, a une odeur pour attirer la mouche du poireau, mais l'odeur de l'un et des autres, eh ben, va s'annuler, et la mouche du poireau ne va pas trouver les poireaux parce que elle va sentir l'odeur de la carotte et ainsi de suite, quoi.
D'accord.
Donc c'est toujours essayer d'associer des plantes qui ont une odeur particulière. Après, on peut broyer des feuilles de sureau, par exemple, de tanaisie, qui ont une odeur très forte et puis que les insectes n'aiment pas trop, et on les met entre les routes de choux, par exemple, au moment du vol de la pyride. Hein? Donc des plants de tanaisie, par exemple, si on en plante dans le parc de pommes de terre, ça va éloigner les doryphores.
Mmh.
Hein? Donc ça, j'ai pas encore essayé, mais on m'a affirmé que c'était vrai, donc c'est que j'essaierai, mais on n'a pas de doryphores pour l'instant.
Non, c'est vrai, on en avait déjà parlé lors d'une émission, c'est vrai, ouais. Qu'on n'a pas de... On ne
alors,
trouve plus de doryphores.
Hein.
Ah oui, bon. Bah,
il y a des gens qui en ont dans le Nord, il y a des gens qui commencent dans leur paquet, des gens qui commencent à en avoir, mais nous, chez nous, il n'y en a pas encore, donc... Pour cela, on est bien tranquille de ce côté-là. Mais je pense quand même qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est plus vous avez de la diversité dans le jardin, hein, et plus le jardin va s'autoréguler simplement, tout seul, sans aucun problème.
Mmh.
Hein. Donc mettez beaucoup de diversité de plantes, et puis tout va se passer bien.
Alors Bertrand, c'est aujourd'hui la dernière avant ces 2 mois de vacances que vous avez bien mérité. Alors dites-nous, justement, avez-vous quelques conseils à donner à tous nos jardiniers avant ces vacances?
Tout d'abord, je leur dirai très bonnes vacances à tous et à toutes. Profitez bien ces moments pour vous reposer, mais également pour vous ressourcer. Hein. En visitant, par exemple, des jardins, il y a toujours de très bonnes idées à prendre dans les jardins qu'on visite lorsqu'on est en vacances. Hein.
Mmh.
Alors, et souvent, quand on part, on se demande dans quel état on va retrouver le jardin rentrant. Hein. Donc, on redécouvre notre jardin comme si c'était la première fois et on le trouve souvent très beau. Hein. Donc, moi, j'ai pas trop de conseils à donner. Hein. Sauf que si vous partez loin du jardin, bah, nettoyez si possible les différents parterres avant de partir, tondez la pelouse, sarclez le potager, éventuellement vous allez pouvoir pailler certaines cultures, par exemple les tomates, les courges, etc., pour garder l'humidité du sol, voilà, il n'y a pas trop de choses à faire. Hein.
Mm.
Mais sûr, si vous partez pendant un mois, vous allez peut-être louper des récoltes, ça c'est un peu embêtant, mais sinon le jardin sera beau rentrant.
Alors Bertrand, justement, nous venons de vivre une période un petit peu difficile et le magazine Respire suggère d'utiliser un temps d'arrêt pour se recharger et il conseille, je le cite, « Laissez la nature vous régénérer, marchez dans la nature dès que possible, levez les yeux et regardez tout ce qui vous entoure, comme si vous étiez un nouveau-né, comme si vous n'aviez jamais vu ce qu'il y a sous vos yeux. Connectez-vous au miracle de la nature. Vous pourrez connaître le calme rien qu'en touchant un pétale de fleur. » Alors, justement, quel est votre propos sur ce conseil? C'est vrai qu'on a chacun de ses astuces pour se ressourcer, et vous, bien sûr, vous avez les vôtres, Bertrand.
Ouais, je trouve en tout cas que ce sont de très très bons conseils que vous venez de nous lire là. Donc, la nature est apaisante. Hein. On a vraiment besoin des plantes, des arbres pour être en bonne santé. Hein. C'est maintenant prouvé. Quand on fait une promenade en forêt d'environ 20 minutes en forêt, on marche tranquillement, bah, ça fait baisser notre stress. Et ça fait remonter nos défenses immunitaires. Donc on en a vraiment besoin, c'est super ça. Alors partout où il y a des arbres, vous pouvez vous ressourcer. Hein. Et puis n'oubliez pas que la vie c'est le mouvement. Hein. Il faut donc avoir des activités physiques. Hein. Les grands sportifs ne sont pas assis dans leur fauteuil devant la télé, hein. Ils s'entraînent en permanence. Et pour bien se ressourcer, il nous faut aussi, nous, une activité physique. Et justement, le jardinage, c'est une excellente activité physique qui permet de rester en excellente forme. Hein, mais en plus, le fait de travailler la terre, ça nous fait ingérer par les pores de la peau et par la respiration certaines bactéries volatiles qui nous font sécréter l'hormone du bonheur. Donc c'est vrai qu'après une après-midi de jardinage, on se sent bien, on se sent apaisé, que du bonheur. Mais c'est dû à ces bactéries qu'on ingère. Alors prenez aussi le temps d'admirer la nature. La moindre petite fleur sauvage, c'est un chef-d'œuvre. C'est magnifique, quoi. Et regardez. Et pour être heureux, bah, l'humain a besoin de créer des œuvres d'art, d'admirer des œuvres d'art. Alors je pense que l'art est indispensable. Hein. Il crée en nous des émotions, il nous rend la vie plus belle. Hein. Et bien bah, la nature, si on prend le temps de la contempler, c'est tout entière une œuvre d'art.
C'est vrai.
Alors on n'est pas fait pour vivre dans le béton, même si on s'y adapte. Mais, alors il y a même une étude qui prouve que si vous allez à l'hôpital, par exemple, vous devez vous faire opérer, j'espère que ce soit pas trop grave, hein, mais il vaut mieux avoir une chambre avec vue sur les arbres qu'une chambre avec vue sur le béton. On guérit beaucoup plus vite quand on a une chambre avec vue sur les arbres, et le taux de mortalité est nettement inférieur également. Donc c'est quand même, on se rend compte que c'est vraiment important, les arbres sont vraiment importants pour nous. Alors oui, pour se ressourcer, bah, il n'y a pas mieux que la nature, les forêts, les arbres, ou tout simplement le jardin. Voilà.
Voilà, nous sommes convaincus de la même chose, Bertrand.
Ouais, et j'ajouterais surtout, si vous aimez la nature, si vous voulez aller en forêt, bah, n'abandonnez pas vos déchets en forêt, ni nulle part d'ailleurs. On en voit de plus en plus des gens qui profitent de la forêt pour être bien, et puis qui abandonnent tous leurs déchets, c'est quand même malheureux quand même.
Ça c'est bien, Bertrand, vous le dites calmement, vous. Moi je le dis un peu plus en colère, voyez. Ça me révolte, c'est révoltant. Bon. En tout cas, eh bien, je vous souhaite de très très bonnes vacances et cela, bien sûr, me ferait plaisir de vous retrouver en septembre après ces deux mois estivaux qui, espérons-le, ne seront pas trop secs, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, on y croit, en septembre, sans doute pourrez-vous nous annoncer que cette célèbre fête de la tomate aura bien lieu. Et je pense que votre association des paysages et jardins des hommes est quand même déjà un petit peu sur le pied de guerre, on y croit, Bertrand?
Oui, tout à fait, on y croit, on la prépare, mais dire qu'elle aura lieu, c'est pas encore sûr, tout dépend des contraintes sanitaires, hein. On peut pas savoir actuellement si on pourra la faire ou pas, on ne sait pas encore. On n'a pas encore de directive vraiment claire là-dessus.
On croise les doigts. En tout cas, merci à vous Bertrand, et puis je vous souhaite de très bonnes et de très belles vacances.
Et bien, pareillement, très belles et très bonnes vacances à tous. Et à toutes.
À bientôt.
À bientôt.
Tout m'étonne, l'automne et l'hiver, tout m'étonne, le sable et la mer, tout m'étonne, les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne, le soleil, là dans l'eau du puits qui sommeille, seront où je suis, tout en bas, un reflet qui danse. Une odeur d'enfance, l'au-delà. Tout m'étonne, un oiseau qui passe. Tout m'étonne, la terre et l'espace. Tout m'étonne, ta main dans la mienne, nos doigts qui se tiennent. Tout m'étonne. Les nuages, les mots qui se changent en images, un panier d'orange au soleil, un caillou qui brille, une feuille, une chenille, une abeille. Tout m'étonne, l'enfant qui dessine, tout m'étonne, l'instinct des racines, tout m'étonne. Sang dans nos veines, l'amour et la haine, tout m'étonne. Le soleil, là dans l'eau du puits qui sommeille, cet instant sans bruit ni personne, un reflet qui danse, une odeur d'enfance. Tout m'étonne, tout m'étonne, l'automne et l'hiver, tout m'étonne, le sable et la mer, tout m'étonne, les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne, les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne.
Gilbert Lafaye sur Radio Plus, c'est une superbe chanson que l'on dédie donc à Bertrand Trinel qui chaque semaine nous prodigue ses précieux conseils pour vivre en harmonie avec la nature et pour la respecter, cette nature qui avait repris ses droits durant ce confinement. Et finalement, quand l'homme est contraint de faire une pause, la nature réinvestit les espaces habituellement surexploités par l'activité humaine et les animaux ont quartier libre. Finalement, c'était pas mal ce confinement. En tout cas, eh bien voilà, ce que je vous souhaite, c'est de très très bonnes vacances, et puis avec chacun son tempo, bien sûr.
Ah. Les rues sont pleines de gens qui courent après je ne sais quoi, probablement l'amour. Dans tous les sens, à toute vitesse, comme pris de démence et rongé par le stress. La gueule cousue de peur d'être en retard, dégringolant le long des rues et des boulevards. Alors que passent les heures, les minutes et les secondes, les petites fourmis cavalent autour du monde. À l'heure qu'il est, garçons et filles sont devenus les esclaves des petites aiguilles de la montre bracelet. Ce drôle de bijou qu'ils ont tous au poignet, ils font la course à la trotteuse, la petite aiguille marathonneuse. Quelle heure est-il? Ils deviennent débiles à force de courir après le temps qui file.
Choisis ton tempo,
le rêve minutage.
Choisis ton tempo,
où tu vas mourir bien avant l'âge.
Écoute ton cœur,
seul voyageur toujours à l'heure.
À suivre voisin,
qui ne va jamais comme le tien.
Quelle que soit l'heure, en avance, en retard, ils ont les yeux rivés sur la pendule de la gare. Et quoi qu'ils fassent et où qu'ils aillent, le temps les enflamme comme un feu de paille. Robots obéissant à la loi du tic-tac, ils s'usent peu à peu, puis pour finir ils craquent. Ils n'ont qu'un rêve en tête, que le temps s'arrête. Mais on n'arrête pas le cycle des planètes. Bonhomme sans recul, pauvre petit insecte, paquet de cellules dotées d'un intellect. Tu t'es fait l'inventeur du chronomètre. Tu mesures le temps, mais le temps reste ton maître. T'as raté le début de l'histoire. Tu as beau cavaler, t'en verras pas la fin. Alors n'aie pas peur d'être en retard, et dis-toi qu'être à l'heure, ça ne sert à rien.
Choisis ton tempo,
le rêve, le minutage.
Choisis ton tempo,
où tu vas mourir bien avant l'heure.
Écoute ton cœur,
seul voyageur toujours à l'heure.
Suis le voisin,
qui ne va jamais comme le tien.
Breaké.
Au quatrième top, il sera 19h25.
Tram, gram, bebop et télégram, tu dois gagner du temps car le temps c'est ta cam. À présent plus le temps de prendre ton temps, arriver le premier devient plus important. Pendule, horloge, radio, réveil finiront un beau jour par nous rendre damnés. Et ce sera la courbe du soleil qui sera le repère pour rythmer la journée. Pauvre batteur, pauvre petit bonhomme, tu étais musicien, te voilà métronome, commandé par le clic de l'ordinateur. Salaire de la peur au salaire de la sueur. Alors tape en place, petit batteur, ou le gros séquenceur, il t'a dit de faire. Sors ton gros.
Eh oui, déstressé, prenez le temps de vivre et tenez, on se retrouve tout de suite pour Kaléidoscope pour faire le plein d'énergie. Bye bye.